Chapitre 3. Il demeura ébloui sur le pas de la porte. Devant lui s'étendait une vaste cour bouillonnée par des bulles de pissenlit s'époilant au-dessus de feuilles vertes qui rampaient sur de la caillasse hérissée de cils durs. À droite, un puits surmonté d'une sorte de pagode en tôle terminé en un croissant de fer posé sur une boule. Plus loin, des fils de pêcher écartelés le long d'un mur, et au-dessus, l'église, dont le profil d'un gris tiède disparaissait à certaines places sous la résille vernie d'un lierre, à d'autres sous le velours jaune souci d'un amas de mousse. À gauche et derrière lui, le château immense, avec une aile d'un étage percée de 8 fenêtres, une tour carrée et contenant l'escalier, puis en retour d'équerre, une autre aile avec les croisées du bas taillées en ogive. Et cette bâtisse, cassée par l'âge, tressaillée par les pluies, minée par les bises, élevait sa face éclairée de croisées à triple croix gondolée de vitres couleur d'eau, coiffée d'un toit en tuiles brunes jaspées de blanc par des fientes, dans un fluide de jour pâle qui blondissait sa peau hâlée de pierre. Jacques oubliait la funèbre impression ressentie la veille. Un coup de soleil fardait la vieillesse du château, dont les imposantes rides souriaient comme horrifiées de lumière dans les murs frottés de rouille par les Y de fer également espacés sur le rugueux épiderme de son crépi. Ce silence inanimé, cet abandon qui lui avait étreint le cœur, la nuit, n'existait plus. La vie terminée de ces lieux que dénonçaient les fenêtres sans rideaux, ouvrant sur des corridors nus et des chambres vides, semblait prête à renaître. Il allait certainement suffire d'aérer les pièces, de réveiller par des éclats de voix à la sonnerie endormie de ses chambres pour que le château revécût son existence arrêtée depuis des ans. Puis, tandis que le jeune homme l'examinait, inspectant la façade, découvrant que l'étage et le toit dataient du siècle dernier, alors que les assises remontaient au temps du Moyen-Âge, un grand bruit le fit se retourner, et levant la tête, il constata que cette tour ronde, entrevue la veille, n'attenait point au château, comme il l'avait cru. Elle était isolée dans une basse-cour et servait de pigeonnier. Il s'approcha, gravit un escalier en ruine, tira le verrou d'une porte et passa le coup. Un immense effroi d'ailes s'entrechoquant, éperdu en haut de la tour, l'étourdit en même temps qu'un vorace fumet d'ammoniac lui picorait la muqueuse du nez et la frange des yeux. Il recula, rentrevit à peine, au travers de ses larmes, l'intérieur de ce pigeonnier, alvéolé comme un dedans de ruche, muni au centre d'une échelle montée sur pivot, et, se retirant, il aperçut une neige de blanc duvet qui tournoyait dans une écharpe de lumière, déroulée d'une lucarne ouverte au sommet de la tour au ras du sol. Tous les oiseaux enfuis du colombier s'étaient réfugiés sur le château et tous battaient de l'aile, s'étiraient, se rengorgeaient, se pouillaient, remuant au soleil des dos aux reflets métalliques, des poitrails de vif argent lustrés de vert réséda et de rose, des gorges de satin frémissant, flammes de ponche, grève, aurore et cendre. Puis une partie des pigeons s'envola en cercle autour des hautes cheminées du faîte, et subitement la guirlande se rompit, et ils s'éparpillèrent de nouveau sur la tour, dont le toit se fourra d'un bonnet de roucoulant de plumes. Jacques tourna le dos au château, et en face de lui, au bout de la cour, il vit un jardin fou, une ascension d'arbres montant en démence dans le ciel. En s'approchant, il reconnut d'anciens parterres taillés en amande, mais leur forme subsistait à peine. Des plants de buis qui jadis le bordaient, les uns étaient morts et les autres avaient poussé, ainsi que des arbres, et il semblait, comme dans les cimetières, ombrager les tombes perdues sous l'herbe. Çà et là, dans ces antiques ovales envahis par des orties et par les ronces, de vieux rosiers apparaissaient, retournés à l'état sauvage. Semences fouillies de verts et rougeâtres, olives des gratte-culs renaissants, et plus tard, plus loin, des pommes de terre venues d'on ne sait où germaient, ainsi que des coquelicots et des trèfles, sans doute sautaient les champs. Enfin, dans une autre corbeille, des touffes d'absinthe fouettaient des aigrettes d'herbes folles d'une odorante grêle de pastilles d'or. Jacques marcha vers une pelouse, mais le gazon était mort, étouffé par les mousses. Les pieds enfonçaient et butaient contre des souches ensevelies et des chicots enterrés depuis des ans. Il tenta de suivre une allée dont le dessin était visible encore. Les arbres, livrés à eux-mêmes, la barricadaient avec leurs branches. Ce jardin avait dû autrefois être planté d'arbres à fruits et d'arbres à fleurs. Des noisetiers gros comme des chênes et des sumacs aux petites billes d'un violet noir, poissés tels que des cassis, emmêlaient leurs bras dans les têtes percluses de vieux pommiers aux troncs écuissés, aux plaies pansées par des lichens. Des buissons de magnodes agitaient leurs gousses de taffetas gommé sous des arbres bizarres, dont Jacques ignorait le pays et le nom, des arbres pointillés de boules grises, des sortes de muscades molles d'où sortaient les petits doigts ongles humides et roses. Dans cette bousculade de végétation, dans ces fusées de verdure, éclatantes à leur gré dans tous les sens, les conifères débordaient, des pins, des sapins, des épicéas et des cyprès. D'aucuns, gigantesques en forme de toit pagode, balançaient les cloches brunes de leurs pommes, d'autres perlés de petits glands rouges, d'autres encore granités de bleuâtres boutons à côtes, et ils élevaient leurs mâts hérissés d'aiguilles, arrondissaient des troncs énormes, cadranés d'entailles, d'où coulaient, pareils à des gouttes de sucre fondu, des larmes de résine blanche. Jacques avançait lentement, écartant les arbustes, enjambant les touffes. Bientôt la route devint impraticable. Des branches basses de pins barraient le sentier, couraient en se retroussant par terre, tuant toute végétation sous elles, semant le sol de milieux et d'épingles brunes, tandis que de vieux sarments de vigne sautaient d'un bord de l'allée à l'autre dans le vide, et, s'accrochant au fût des pins, grimpaient autour d'eux en serpentant jusqu'aux cimes et agitaient tout en haut, dans le ciel, de triomphales grappes de raisins verts. Il regardait étonné ce chaos de plantes et d'arbres. Depuis combien de temps ce jardin était-il laissé à l'abandon? Çà et là, de grands chênes élancés de travers se croisaient, et, morts de vieillesse, servaient d'appui aux parasites qui s'enroulaient entre eux, s'embranchaient en de fins réseaux serrés par des boucles, pendaient, tels que des filets aux mailles vertes, remplis d'une rustique pêche de frondaisons. Des cognassiers, des poiriers, se feuillaient plus loin, mais leur sève affaiblie était inerte à procréer des fruits. Toutes les fleurs cultivées des parterres étaient mortes. C'était un inextricable écheveau de racines et de fialagnes, une invasion de chiens-dents, un assaut de plantes potagères aux graines portées par le vent, de légumes incomestibles aux pulpes laineuses, aux chairs déformées et suries par la solitude dans une terre en friche. et un silence, qu'interrompaient parfois des cris d'oiseaux effarouchés, des sauts de lapins dérangés et fuyants, planaient sur ce désordre de nature, sur cette jacquerie des espèces paysannes et des ivraies, enfin maîtresse d'un sol engraissé par le carnage des essences féodales et des fleurs princières. Mélancoliquement, il songeait à ce cynique brigandage de la nature, si servilement copié par l'homme. Quelle jolie chose que les foules végétales et que les peuples, se dit-il. Il hocha la tête, puis sauta par-dessus les branches basses et ouvrit l'éventail des arbrisseaux qui se replia derrière lui en refermant la route. Il aboutit à une grille de fer. Somme toute, ce jardin n'était point, ainsi qu'il le paraissait, très vaste, mais ses dépendances commençaient derrière la grille. Une allée seigneuriale, dévisagée par des coupes, descendait à travers bois vers une simple porte de chêne à claire-voie, communiquant avec le chemin de Longueville. Il appuya sur cette grille. Elle s'ébranlait, mais ne s'écartait pas. Des mousses tuyautées et craquantes l'obstruaient en bas, tandis que des plantes grimpantes enlaçaient ses barreaux autour desquels des clochettes de liserons encensaient le vent d'un parfum d'amande. Il fit de nouveau volte-face, brassa les taillis d'un vieux berceau dont les branches mortes cassaient en bondissant comme des éclats de verre, et il finit par atteindre une brèche creusée dans le mur, sortit et se trouva derrière la grille. Alors, il aperçut des traces d'anciens fossés dont quelques-uns avaient encore gardé des lambeaux de gargouilles aux gueules bâillonnées par des pariétaires, au col ficelé par des cordons, des volubilis et les lanières en spirale des lambrusques, et il tomba sur la lisière d'un bois de marronniers et de chênes. Il s'engagea dans un sentier, mais bientôt le chemin devint impénétrable. Le lierre dévorait ce bois, couvrait la terre, comblait les excavations, aplanissait les monticules, étouffait les arbres, s'étendait en haut comme un tamis à large maille, en bas comme un champ creux d'un vert noir jaspé çà et là par l'herbe aux couleuvres d'aigrette d'un vermillon vif. Une sensation de crépuscule et de froid descendait de ces voûtes épaisses qui blutaient un jour dépouillées d'or et filtraient seulement une lumière violette sur les marches assombries du sol. Une odeur forte, âpre, quelque chose comme la senteur de l'urine des sangliers, montait de la terre pourrie de feuilles, bousculée par les taupes, ébranlée par les racines, éboulée par l'eau. Cette impression d'humidité qu'il avait glacée la veille, dès ses premiers pas dans le château, le ressaisit. Il dut s'arrêter, car ses pieds butaient dans des trous, s'empêtraient dans les trappes du lierre. Il rebroussa le chemin, suivit la lisière du bois, et longea les derrières du château qu'il n'avait point vu. Ce côté, privé de soleil, était lugubre. Vu devant, le château demeurait imposant, malgré la misère de sa tenue et le délabrement de sa face au grand jour. Sa vieillesse, animée même, devenait en quelque sorte accueillante et douce. Et vu de dos, il apparaissait morne et caduque, sordide et sombre. Les toits, si gais au soleil, avec leurs teints basanés piqués par le guano de mouches blanches, devenaient dans cette ombre tel qu'un fond oublié de cage, d'une saleté ignoble. Au-dessous d'eux, tout cahotait. Les gouttières, chargées de feuilles, gorgées de tuiles, avaient crevé et inondé d'un jus de chic les crépis excoriés par le vent du nord. Les agraves des tuyaux de descente s'étaient rompus et d'aucuns pendaient, retroussés et agitaient en l'air leurs manches vides. Les fenêtres étaient démantibulées, les volets fracturés, recloués à la hâte, bandés par des planches. Les persiennes vacillaient, dégarnies de lames, déséquilibrées par des pertes de gonds. En bas, un perron fracassé de 6 marches, creusé en dessous d'une niche ébouriffée d'herbe, accédait à une porte condamnée, dont les ais fendus étaient rejoints et comme bouchés par le noir du vestibule fermé situé derrière. En somme, les infirmités d'une vieillesse horrible. L'expulsion catarrhale des eaux, les coupes roses du plâtre, la châssis des fenêtres, les fistules de la pierre, la lèpre des briques, toute une hémorragie d'ordures s'était ruée sur ce galetas qui crevait seul à l'abandon dans la solitude cachée du bois. Cet éblouissement de lueur, cette pluie de soleil qui avait abattu le grand vent d'angoisse dont il était souffleté la veille, avait pris fin. Une indicible tristesse lui serrait à nouveau le cœur. Le souvenir de l'affreuse nuit dans cette ruine renaissait, avec la honte, maintenant qu'il faisait clair et que la lucidité du jour se réverbérait quand même dans son esprit, avec la honte d'avoir été si profondément énervé par cette station dans les ténèbres. Et cependant, il se sentait encore envahi par de singuliers malaises. Cet isolement, ce bois humide, cette lumière qui se décantait violâtre et trouble sous ses voûtes, agissaient comme l'obscurité et le froid du château, dont il rappelait la mélancolie maladive et sourde. Il frissonna et s'exaspéra en même temps au ridicule souvenir de sa lutte dans l'escalier contre un chat-huant. Il tenta de s'analyser, savoua qu'il se trouvait dans un état désorbité d'âme, soumis contre toute volonté à des impressions externes, travaillé par des nerfs écorchés en révolte contre sa raison dont les misérables défaillances s'étaient quand même dissipées depuis la venue du jour. Cette lutte intime l'accabla. Il se hâta pour s'y soustraire, espérant que ce mal-être disparaîtrait dans des lieux moins sombres. Il gagna à grands pas une route chinée de raies de soleil qu'il apercevait au bout du château et détaillit, et ses prévisions semblèrent se réaliser dès qu'il eut atteint ce chemin qui séparait les dépendances du château des biens de la commune. Il se sentit allégé. Les talus d'herbe étaient secs. Il s'assit et d'un coup d'œil enfila les tours, les bergers, les voix, oublia ses ennuis, imprégné qu'il fut subitement par l'engourdissante tiédeur de ce paysage dont les souterraines effluves lui déglaçaient l'âme. Ce délai fut de courte durée. La marche de ses pensées, revenant en arrière sur les routes effarées, parcourut la nuit, recommença, mais plus ordonnée et plus précise. Maintenant qu'il était sorti de ce bois dont l'atmosphère suscitait par le retour d'un milieu imaginairement analogue des sensations semblables à celles qu'il avait subies dans le château la veille, il rougissait de ses appréhensions, s'indignait de ses malaises et de ses transes. Ce vague sentiment de honte qu'il avait éprouvé en entrant tout à l'heure sous la futaie et en songeant aux événements de la nuit se décidait. Alors qu'il respirait à plein poumon au soleil, il n'admettait plus, comme sous les arceaux glacés du lierre, ces involontaires frissons qui lui avaient, dans le château, scié l'échine. Il tenta de détourner sa mémoire de cette piste, de la jeter dans une voie de traverse, loin de la campagne, loin du château de l'Ours. Et quand même, elle revint à sa vie présente, sautant par-dessus les années d'enfance qu'il évoquait, par-dessus Paris dont il s'ingéniait à se suggérer l'image, par-dessus même ses ennuis d'argent qu'il appelait à l'aide. Il haussa les épaules, comprenant que si sa pensée ne s'égarait pas, qu'elle ne pourrait malgré tous ses efforts s'éloigner de cette impérieuse veille. Alors il s'efforça de la faire au moins dévier de ses transes, de la conduire et de la fixer sur les seuls événements de la nuit dont la récurrence ne lui fut pas odieuse. Il ferma les yeux pour mieux s'abstraire et songer de nouveau à cet étonnant rêve qu'il avait vu se dérouler devant lui pendant un somme. Il cherchait à se l'expliquer. Où, dans quel temps, sous quelle latitude, dans quel parage pouvait bien se lever ce palais immense, avec ses coupoles élancées dans la nuit, ses colonnes phalliques, cet étonnant rêve? Ces colonnes, ces piliers émergés d'un pavé d'eau miroitant et dur. Il errait dans les propos antiques, dans les vieilles légendes, chopait dans les brumes de l'histoire, se représentait de vagues bactrianes, d'hypothétiques Cappadoces, d'incertaines Suses, imaginait d'impossibles peuples sur lesquels put régner ce monarque rouge, tiaré d'or, grénelé de gemmes. Peu à peu, cependant, une lueur jaillit, et les souvenirs des livres saints en dérive dans sa mémoire se ressoudèrent les uns aux autres et convergèrent sur ce livre où Assuérus, aux écoutes d'une virilité qui s'use, se dresse devant la nièce de Mardochée, l'auguste entremetteur, le bienheureux truchement du dieu des Juifs. Les personnages s'éclairaient à cette lueur, se délinéaient au souvenir de la Bible, devenaient reconnaissables. Le roi silencieux en quête d'un rut, Esther macérée 12 mois durant dans les aromates, baignée dans les huiles, roulée dans les poudres, conduite nue par Égée le nuque vers la couche rédemptrice d'un peuple. Et le symbole se divulguait aussi de la vigne géante, sœur pardonnée de la nudité charnelle, sœur d'Esther, de la vigne s'alliant pour sauver Israël aux appâts de la femme en arrachant une essentielle promesse à la luxueuse soûlerie d'un roi. Oh, cette explication semble juste, se dit-il. Mais comment l'image d'Esther était-elle venue l'assaillir alors qu'aucune circonstance n'avait pu raviver ses souvenirs si longuement éteint? Pas si éteint que cela, reprit-il, puisque, sinon le texte, du moins le sujet du livre d'Esther, me revient à ce moment si net. Malgré tout, il s'entêtait à chercher dans la liaison plus ou moins logique des idées les sources de ce rêve. Mais il n'avait pas lu de livre stimulant par un passage quelconque un rappel possible d'Esther. Il n'avait vu aucune gravure, aucun tableau dont le sujet peut l'induire à y penser. Il devait donc croire que cette lecture de la Bible avait été couvée pendant des années dans une des provinces de sa mémoire, pour qu'une fois la période d'incubation finie, Esther éclata comme une mystérieuse fleur dans le pays du songe. « Tout cela est bien étrange, » conclut-il. Et il demeura pensif, car l'insondable énigme du rêve le hantait. Ses visions étaient-elles, ainsi que l'homme l'a longtemps cru, un voyage de l'âme hors du corps, un élan hors du monde, un vagabondage de l'esprit échappé de son hôtellerie charnelle et errant au hasard dans d'occultes régions, dans d'intérieurs ou futurs limbes? Dans leurs démences hermétiques, les songes avaient-ils un sens? Artémidore avait-il raison lorsqu'il soutenait que le rêve est une fiction de l'âme, signifiant un bien ou un mal? Et le vieux Porphyre Voyait-il juste quand il attribuait les éléments du songe à un génie qui nous avertissait pendant le sommeil des embûches que la vie réveillée prépare? Prédisait-il l'avenir et sommait-il les événements de naître? N'était-il donc pas absolument insane, le séculaire fatras des oniromanciens et des nécromants? Ou bien encore, était-ce, selon les modernes théories de la science, une simple métamorphose des impressions de la vie réelle, une simple déformation de perceptions précédemment acquises? Mais alors, comment expliquer par des souvenirs ces envolées dans des espaces insoupçonnés à l'état de veille? Y avait-il, d'autre part, une nécessaire association des idées si ténues que son fil échappait à l'analyse, un fil souterrain, fonctionnant dans l'obscurité de l'âme, portant l'étincelle, éclairant tout d'un coup ses caps oubliés, reliant ses celliers inoccupés depuis l'enfance? Les phénomènes du rêve avaient-ils, avec les phénomènes de l'existence vive, une parenté plus fidèle qu'il n'était permis à l'homme de le concevoir? Était-ce tout bonnement une inconsciente et subite vibration des fibres de l'encéphale, un résidu d'activité spirituelle, une survie de cerveau créant des embryons de pensée, des larves d'images, passées par la trouble étamine d'une machine mal arrêtée, marchant dans le sommeil avide? Fallait-il enfin admettre des causes surnaturelles? Croire au dessein d'une providence incitant les enquérants tourbillons des songes et accepter du même coup les inévitables visites des incubes et des succubes, toutes les lointaines hypothèses des démonistes? Ou bien convenait-il de s'arrêter aux causes matérielles, de rapporter exclusivement à des leviers externes, à des troubles de l'estomac ou à d'involontaires mouvements du corps, ces divagations éperdues de l'âme? Il importait dans ce cas de ne point douter des prétentions à tout expliquer de la science, de se convaincre, par exemple, que les cauchemars sont enfantés par les épisodes de digestion, les rêves sibériens par le refroidissement du corps débordé et resté nu, l'étouffement par le poids d'une couverture, de reconnaître encore que cette fréquente illusion du dormeur qui saute dans sa couche, s'imaginant dégringoler des marches ou tomber dans un précipice du haut d'une tour, tient uniquement, ainsi que l'affirme Wundt, à une inconsciente extension du pied. Mais même en supposant l'influence des excitants extérieurs, d'un bruit faible, d'un léger attouchement, d'une odeur restée dans une chambre, même en admettant le motif des congestions et des retards ou des hâtes du cœur, même en consentant à croire, comme Radenstock, que les rayons de la lune déterminent chez le dormeur qu'ils atteignent des visions mystiques, tout cela n'expliquait pas ce mystère de la psyché devenue libre et partant à tire-d'aile dans des paysages de féerie, sous des ciels neufs, à travers des villes ressuscitées, des palais futurs et des régions à naître. Tout cela n'expliquait pas surtout cette chimérique entrée d'Esther au château de l'Ourps. C'est à s'y perdre. Il est certain, pourtant, se dit-il, que, quelle que soit l'opinion qu'il professe, les savants annonnent. Ces inutiles réflexions avaient du moins dérivé une de ces pensées qui s'écartaient de leur première source. Le soleil commençait à lui chauffer le dos et à lui couler à son insu un fluide de joie dans les veines. Il se leva et regarda, derrière lui, le paysage qui s'étendait à ses pieds, à perte de vue, pendant des lieues entièrement plates, un paysage écartelé par deux grandes routes d'une longue croix blanche, entre les bras de laquelle courait, fouettée par le vent, une fumée nuancée de vert par les seigles, de violet par les luzernes, et de rose par les sainfoins et par les trèfles. Il éprouvait le besoin de marcher, mais il ne voulut pas revenir par le même chemin. Il longea des murs qui montaient en faisant des coudes, s'avançant lentement, bombant le dos, écoutant le lambourdonnement de l'air, humant la terreuse odeur du vent qui balayait la route. Il se promenait maintenant entre des pommiers et des vignes. Subitement, il aperçut une porte entrebâillée et se trouva dans un verger au bout duquel apparaissait la tour en éteignoir du pigeonnier. « Hé là !» fit une voix à gauche, tandis qu'un roulement de brouette arrivait sur lui. C'était la tante Norine. « Eh ben, ça ira-t-il ce matin, mon neveu ?» Et elle posa les bras de sa brouette à terre. « Mais oui, l'oncle Antoine, il travaille dans la cour à 7 heures, il fait le rein. »« Il fait quoi ? Le rein ?» Devant la mine ahurie de Jacques, la tante Norine s'esclaffa. « Ben ouais, il fait avec du grès le chaudron qui est sale. » Jacques finit par comprendre. « Les reins, fit-il. »« Oui, le rein. C'est en quoi qu'il est le chaudron. »« Et votre vache qui est grosse ?»« Oh, n'en parle pas, mon garçon, pauvre bête, quand j'y pense. »« Ça lui travaille, ça lui tire, mais ça pousse pas encore. » « Je m'en vais, car vois-tu, il faut que j'aille chez le berger par rapport à elle. » Et elle reprit son chemin, droite sous son chapeau de paille, plate sous son canezou, les reins martialement cahotés par son pas militaire, les coudes tremblants sous l'effet de la brouette qui la précédait dans sa marche. « Ah, tout à l'heure, tiens, là !» Et d'un mouvement de tête, elle lui indiquait un petit sentier à suivre, au bout duquel il entrevit en effet, dans une mare de soleil, l'oncle Antoine qui récurait un chaudron de cuivre. Il râpa ses doigts aux siens. « Je viens de quitter Louise, » dit le père Antoine en posant son chaudron à terre. « Ah, elle est donc levée ?»« Ouais, parlait même que la nuit n'a pas été bonne. » Et il ajouta que l'avant-veille, lui et sa femme avaient dû massacrer 2 chats-huants pour prendre possession de la chambre. « Oh, il n'y a pas de danger ici, il n'y a pas de voleur, » reprit-il après un silence, comme se parlant à lui-même ou répétant la réponse faite à une demande que Louis lui avait sans doute adressée. « Seulement, tout de même, tu sais, faudrait pas la nuit prendre tes aisances du côté du bois. »« Ah, et pourquoi ?» « Ben, parce qu'il y a des braconniers et qu'aiment pas qu'on les dérange. »« Mais en votre qualité de régisseur, vous devez les pourchasser, je pense. »« Sans doute, sans doute, mais vois-tu, à ce métier-là, mon garçon, j'attraperai des prunes. »« Vaut mieux, pas vrai, qu'ils mangent de lapin ou qu'ils me le vendent à très bon compte. » Et le vieux cligna de l'œil. « Mais voyons, sieds-toi, t'as le temps. Quand ta femme est loin, à 7 heures, elle est à Savin, avec ma sœur, tu sais, Amandine, ma sœur charnelle, qui l'a emmenée dans sa voiture pour les provisions. Elle ne reviendra pas tant qu'il sera à 1 heure. » Jacques s'assit près du père Antoine sur un tronc d'arbre. Il reconnaissait maintenant la petite maison dans laquelle il avait dîné la veille. Au jour, elle lui parut encore plus minable et plus basse, avec son toit dépaillé et sa porte d'étable, ses hangars chancelants qui s'appuyaient sur elle, pleins de liesses de fourrage, de tonneaux et de bêches. La senteur de la vacherie lui arrivait, chauffée par la tôle d'un ciel séché pendant la nuit, devenu blanc, sans flocons, d'un bleu presque dur. Jacques finit par ne plus écouter le vieux qui patoisait, la figure dorée par les reflets de son chaudron. Machinalement, il roulait entre ses doigts la tige creuse d'un pissenlit dont les poils couraient sur sa culotte, chassés par des pichenettes. Puis il regarda les poules, des poules cailloutées de noir qui picoraient du bout du bec, puis grattaient furieusement le sol avec l'étoile de leurs pattes, et la repiquait encore d'un coup bref. Ça et là, des poussins filaient, pariaient le petit rat dès que le coq s'approchait, lançant brusquement son cou, secouant comme pour s'envoler ses plumes. Il finissait par s'endormir, grisé par l'odeur du fumier et des bouses. Un cri du coq le tira de sa torpeur. Il ouvrit un œil. Le père Antoine fourgonnait maintenant sous le hangar. Jacques bâilla, puis s'intéressa à une troupe de canards qui marchait en se balançant sur lui. À 6 pas, ils s'arrêtèrent, tournèrent court et s'élancèrent en faisant clapoter la pince citron de leur bec contre un morceau de viande de vieux bois, les caillant et gobant les cloportes qui, découverts, fuyaient en hâte. « Oh, ça, tu dors !» fit l'oncle Antoine. « Viens avec moi jusqu'à la côte de la Graffine, ça te réveillera !» Mais le jeune homme refusa. Il préférait aller visiter les chambres du château. Il était en effet curieux de sonder l'intérieur de cette bâtisse et de s'assurer avant la nuit s'il ne serait pas possible de s'installer dans une pièce mieux fermée et moins triste. Il se sentait épuisé par son voyage en chemin de fer, par sa trotte à pied, par sa nuit vide. Il lui semblait avoir du feu dans la paume des mains et des bouffées de chaleur lui passaient auprès des tempes. Chemin faisant, il se raisonna. S'il était agité par cette vague et tyrannique crainte, possédé par cette préoccupation de sécurité, par ce besoin de vigie, hanté par cet inexplicable rêve qui l'obsédait maintenant encore, cela tenait simplement à son état d'énervement et de fatigue, à son déséquilibre préparé par les inquiétudes et les soucis, décidé par un changement de milieu brusque. Une bonne nuit me libérera de ce malaise. En attendant, examinons, se dit-il en pénétrant dans le vestibule du château, toutes les pièces du bas. Il entra dans la cuisine, sombre, éclairée par des jours de souffrance, pareil à un cachot de théâtre, avec sa voûte cintrée, ses portes basses, arrondies du haut, sa cheminée à hotte, son carreau brut. Puis il tomba dans une série de casemates sinistres, aux planchers de terre battue, creusés par des affouillements, troués dans son sol marneux d'yeux en eau noire. Il tourna bride, revint par les pièces déjà parcourues la nuit. Elles lui semblèrent encore plus détériorées, plus lenticulées par des sels de nitre, plus sans voirie dans ce bain de soleil qui arrosait la suintante charpie des papiers pendus au mur. Enfin, il s'engagea dans l'autre aile et vagua au travers des chambres désertes. Toutes étaient semblables, immenses, surplombées de hauts plafonds, mal parquetées, montrant des lambourdes pourries, puant le champignon, sentant le rat. Elles sont inhabitables, se dit-il. Il finit par aboutir à une chambre à coucher, très grande, parée de 2 cheminées, une à chaque angle. Cette pièce était superbe, boisée de lambris gris rechampis de filets angéliques, surmontée de trumeaux au-dessus des portes, percée de 2 larges fenêtres aux volets clos. Mais voilà mon affaire, explorons cela de près. Il décella les espagnolettes des croisées, se cassa les ongles contre les volets qui, en grinçant, cédèrent. Alors il resta désappointé. Cette chambre gardait une apparence de santé dans l'ombre, mais à la lumière, elle était d'une vieillesse exténuée, ignoble. Son plafond en anse renversé pliait. Les feuilles soulevées du parquet se tenaient bout à bout. Des placards au papier collé sur châssis étaient crevés et laissaient voir à nu une toile à cataplasme laudanisé par les rouilles. Une sueur de café coulait sans relâche sur les lames persillées des plinthes et d'énormes chapelets s'égrenaient le long des frises, des chapelets au fil imités par des lézards, aux grains signifiés par des pâles ampoules des moisissures. Il s'approcha de l'alcôve, constata qu'elle était sillonnée de vermicelle et taraudée par les termites. D'un coup de poing et tout croulait. Quelle ruine! Cette chambre était peut-être la plus maltraitée de toutes. Une petite porte située près de l'alcôve l'attira. Elle ouvrait sur un cabinet de toilette garni de rayons. Une étrange odeur s'échappait de cette pièce, une odeur de poussière tiède, au fond de laquelle filtrait comme un parfum très effacé d'éther. Ce relent l'attendrit presque, car il suscitait en lui des dolorantes visions d'un passé défait. Il semblait la dernière émanation des senteurs oubliées du XVIIIe siècle, de ces senteurs à base de bergamote et de citron, qui, lorsqu'elles sont éventées, fleurent les terres. L'âme des flacons autrefois débouchés revenait et souhaitait une plaintive bienvenue aux visiteurs de ces chambres mortes. C'était probablement le cabinet de toilette de cette marquise de Saint-Phal, dont le père Antoine avait, lors de ses voyages à Paris, souvent parlé. Et cette chambre à coucher était sans doute aussi la sienne. La tradition paysanne représentait la marquise effilée, mignarde, alanguie, presque dolente. Tous ces détails se rappelaient les uns les autres, se groupaient, puis se fondaient en une image poudrée de jeune femme, rêvant dans une bergère, et se chauffant les pieds et le dos entre les deux cheminées aux âtres rouges. Comme tout cela était loin. Les frileux appâts de la femme dormaient dans le cimetière, à côté de lui, derrière l'église. La chambre était, elle aussi, trépassée, puait la tombe. Il lui semblait violer une sépulture, la sépulture d'un âge révolu, d'un milieu défunt. Il referma les volets et les portes, regagna l'escalier, monta au premier étage jusqu'à sa chambre, tourna et commença de visiter l'aile droite. Son étonnement s'accrut. C'était une véritable folie de portes. 5 ou 6 s'ouvraient sur un long corridor. Il poussait une porte et 3 autres se présentaient aussitôt, fermées dans une pièce noire. Et toutes donnaient sur des lieux de débarras, dans des niches obscures, qui se reliaient entre elles par d'autres portes, et aboutissaient généralement à une grande salle éclairée sur le parc, une salle horloque pleine de débris et de miettes. « Quel abandon !» se disait-il. Il ressortit et visita l'autre aile. Sans espoir, du reste, il pénétra par de nouvelles portes dans d'autres chambres, s'égara dans ce labyrinthe, revenant à son point de départ, pivotant sur lui-même, perdant la tête dans cet inextricable fouillis de cabinets et de pièces. Il faisait à lui seul un dur vacarme. Ses pas sonnaient dans le vide ainsi que des bottes de bataillon en marche. Les gonds oxydés grinçaient à chaque secousse et les fenêtres ébranlées criaient. Il finissait par s'exaspérer dans tout ce bruit quand il échoua au bout du château dans un salon immense garni de rayons et d'armoires. Il recula les volets d'une croisée et dans un jet de lumière, la physionomie de ce lieu parut. C'était l'ancienne bibliothèque du château. Les armoires avaient perdu leurs vitres dont les éclats craquaient sous ses souliers dès qu'il bougeait. Le plafond se cuvait par places, s'écaillait, pleuvait les pellicules de ses plâtres sur la poutre du verre qui sablait le plancher de ses petites lueurs. Et derrière lui, le jeune homme s'aperçut qu'un sureau poussait au travers d'une fenêtre crevée dans la pièce et époussetait de ses branches les loupes et les cloques soulevées par l'humidité des murs. En bas, en haut, tout s'avariait, se porphyrisait, s'écalait, se carriait. Tandis que, en l'air, d'énormes araignées de granges estampées sur le dos d'une croix blanche se balançaient, dansant de silencieuses chaconnes, les unes en face des autres, au bout d'un fil. Ainsi que dans la chambre à coucher de la marquise, il restait songeur. Cette bibliothèque si délabrée avait dû vivre. Qu'étaient devenus tous les veaux jaspés, tous les marocains à gros grains bleus, gendarmes ou vins de Bordeaux, têtes de mort ou myrtes, les peaux du Levant, armoriées sur les plats et dorées sur les tranches, qu'était devenu l'indispensable map-monde avec ses têtes d'anges bouffis soufflant de leurs joues gonflées à chacun des points cardinaux, qu'était devenu la table en bois d'amarante et de rose, les meubles contournés aux sabots dorés, à l'or moulu et aux pieds d'or. Comme les prés, comme les bois maintenant dépecés par les paysans, ils avaient sans doute disparu dans la bourrasque des pillages et des ventes. Allons, en voilà assez, soupira-t-il en refermant la porte. Ma femme a raison. Dans cet immense château, un seul endroit vit. Il retrouva le couloir de dégagement et, une fois de retour dans l'escalier, gagna les combles. Il n'eut point le courage de se promener dans les mansardes. Il se contenta d'entrebâiller une porte, vit le ciel surgissant par des trous non bouchés de tuiles, et redescendit, s'imaginant par comparaison que la pièce choisie par Louise était charmante. Mais cette impression ne dura guère. Elle s'évanouit dès qu'il s'approcha de la fenêtre. Cette croisée s'éclairait sur le derrière du château, devant le bois noir, mangé de lierre. Il sentit un frisson lui friper le dos et il se dirigea vers la cour. Il rôda en sort autour du château, cherchant si, par des fermetures solides, il pourrait se mettre à l'abri dès l'ombre des maraudeurs et des bêtes. Les portes se refusaient bien à s'ouvrir sans coup de pied ou peser d'épaule, mais la plupart avaient perdu leur chef, leur clé ou devaient fermer par des loquets, maintenant perdus et des bobinettes privées de gâches. Il inspecta les alentours. Le parc n'était même pas clos du côté du bois. Nul mur et nulle haie. Tout le monde pouvait entrer. Oh, c'est vraiment pas trop primitif, se dit-il. Puis, accablé de sommeil, il s'enfuit au jardin, s'étendit sur la pelouse et, une fois de plus, la fringante clarté du ciel lui retourna l'âme, car ses pensées viraient comme celles de tous les gens dont le corps est lard, suivant des impressions purement externes. Il eut un soupir de satisfaction et s'endormit, le dos douillettement emboîté dans la suade des mousses, la face lentement rafraîchie par l'éventail résineux des pins.